réveillé.
Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Joe Biden est le nouveau président des États-Unis. Le démocrate l'emporte face à Donald Trump et devient le 46e leader du pays en compagnie de sa vice-présidente Kamala Harris, la première femme noire à occuper ce poste dans l'histoire du pays. De son côté, Donald Trump ne s'est pas exprimé publiquement et a nié avoir perdu sur les réseaux sociaux. Celui qui est désormais l'ancien président était de retour hier à 23h, heure française, à la Maison-Blanche après avoir joué une partie de golf en Virginie. D'ailleurs, que se passerait-il si Donald Trump ne reconnaissait pas sa défaite? Un rapport effectué par le Transition Integrity Project, publié en août, évoquait déjà que Trump était susceptible de contester le résultat par tous les moyens légaux et extra-légaux. La Constitution américaine prévoit dans son 20e amendement que les mandats de président prennent fin le 20 janvier à midi et que ceux de leurs successeurs commencent à ce moment-là, mais rien n'est prévu si le président sortant refuse la défaite. Covid-19. En France, la barre des 40 000 morts a été franchie selon les autorités de la santé. Les chiffres publiés hier par Santé publique France font état de 306 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Et Covid-19, toujours, les tensions montent en Allemagne. 20 000 personnes se sont rassemblées hier à Leipzig pour s'opposer notamment au port du masque. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir procédé à des arrestations sans donner plus de précisions. Elles ont indiqué que de nombreuses attaques avaient eu lieu contre elles avec des jets d'objets et des feux d'artifice. La visite de l'épave du Titanic, bientôt possible, un sous-marin pouvant accueillir 3 passagers, permettra de descendre à 4 km de profondeur. Cette visite sera proposée au printemps 2021 pour la coquette somme de $125 000. Une bonne nouvelle pour les fans de Stromae, le chanteur belge prépare un nouvel album. Dans un entretien à Libération, il explique, je cite, « Un album arrivera à un moment donné, mais je n'ai pas vraiment de date ».
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans ce flash d'actualité locale, on commence par un fait divers. L'homme qui avait menacé de décapiter le professeur d'histoire du jeu télévisé de TF1 Koh-Lanta édition 2020 a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy jeudi dernier. Cet ingénieur au chômage à 30 ans, originaire des Clayes-sous-Bois, a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à 18 mois de prison, dont 6 fermes, peine assortie d'un mandat de dépôt. Il comparaissait pour avoir menacé de mort l'enseignant devenu médiatique, lui promettant de le décapiter lundi dernier via les réseaux sociaux Instagram et Facebook. On parle du département des Yvelines. Dans un tweet, le président du conseil départemental, Pierre Bédier, a demandé le report des élections départementales prévues normalement en mars 2021. « Je souhaite, dit-il, un report en raison de la complexité de la situation. Le débat démocratique ne peut pas s'exprimer à travers une campagne électorale incertaine et rien ne serait pire que de maintenir le premier tour et de repousser le second à une date ultérieure, comme cela s'est fait au municipal. » Rappelons que le Premier ministre a justement confié à Jean-Louis Debré une mission pour définir dans quelles conditions le scrutin pourrait être maintenu en mars 2021 ou reporté. On parle de la crise sanitaire dans notre région. Médecins, soignants et soignantes le confirment. Il y a davantage de membres du personnel hospitalier atteints de la Covid lors de cette seconde vague de l'épidémie. Un personnel épuisé, démotivé, en souffrance pour certains touchés par le virus et évidemment sous-effectif. Tous les services sont en action. Les héros sont de retour. Allons-nous être applaudis et si peu reconnus par la suite? Soulignée à la presse écrite la représentante du syndicat CGT des hospitaliers. Par ailleurs, comme l'annonçaient toutes les nouvelles et 78 actes dès lundi, à l'hôpital de Versailles André Mignot, les 3 salles de bloc sont désormais réservées exclusivement aux malades de la Covid. Du coup, leurs interventions chirurgicales viennent à Rambouillet qui les programme en plus de celles prévues au sein de l'hôpital. Les lits de chirurgie passent de 20 à 22 lits pour assurer ce fonctionnement. Et au sein de l'hôpital de Rambouillet, le nombre de cas de Covid augmente de 21 lundi 26 octobre, dont 3 en réanimation, à 28 patients jeudi 29 octobre dernier, rapporte la presse écrite. Merci d'avoir suivi ce flash. Poursuite des programmes sur RVE et bon dimanche. Il est 10h passé de 2 minutes, retour de l'actualité. Ça sera tout à l'heure à 11h. Le sport version confinée avec Philippe Carnus dans Tribune Sport dans quelques instants. Météo de ce dimanche, c'est comme hier, un ciel qui alterne nuages et éclaircies. On aura 14 à 15 degrés cet après-midi et ce matin, 11 à 12 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh bien oui, nous sommes là, bonjour à toutes et à tous, content de vous avoir en ce dimanche 8 novembre. Alors ce matin, on aura une émission riche et puis variée, on s'intéressera à voir comment le sport amateur et surtout le foot amateur donc vit cette nouvelle période de confinement. Ensuite, en deuxième partie de notre émission, on fera un petit bilan du tournoi à destination de rugby avec notre consultant maison Christian Rieux. Et puis on finira avec Olivier Bourdin qui nous dira tout sur la prochaine édition du Tour de France 2020-2021 dévoilée donc la semaine dernière. Je suis ravi en tout cas d'accueillir ce matin notre premier invité. C'est le président de la section foot de Rambouillet, Florent Baudouin. Bonjour Florent.
Bonjour.
Alors Florent, c'est pas trop compliqué actuellement ?
Ah bah c'est... assez compliqué en effet, tout est à l'arrêt maintenant, donc c'est la deuxième fois avec la fin de saison de l'année dernière. Là on avait bien démarré la saison, il y a un arrêt total qui se fait, donc c'est assez compliqué, mais c'est un mal pour un bien.
Oui, alors comment vous gérez ça, parce que bon, vous avez été confronté pendant quelques jours au problème donc de ne pas donc faire d'entraînement le soir, hein, le couvre-feu. Et bon, dans rapidement il y a eu ce nouveau confinement qui était un petit peu plus inattendu. Comment vous gérez ça, comment le club a réagi?
Alors quand il y a eu donc le couvre-feu, donc nous on a adapté nos plannings d'entraînement ont été adaptés, dans le sens où on a réduit pour certaines catégories les entraînements pour que toutes nos sections, quelles qu'elles soient, puissent s'entraîner au moins une fois par semaine. Donc on s'est adapté par rapport à ça. On a notamment, juste avant le confinement, il y a eu la période des vacances scolaires, où là on a pu faire des entraînements dans la journée, parce que plusieurs de nos éducateurs étaient disponibles en journée. Donc on a pu adapter des séances d'entraînement le matin, l'après-midi, pendant les vacances scolaires, pour justement garder un rythme. D'ailleurs, je remercie la mairie d'Rambouillet et le service des sports d'avoir pu nous permettre de nous entraîner pendant la semaine juste avant le confinement, les semaines avant le confinement, et d'avoir adapté les horaires pour les entraînements. Donc on a pu s'adapter, mais c'est vrai que là maintenant, avec le confinement, tout est à l'arrêt chez nous, même si certaines catégories chez nous font des séances entre guillemets virtuelles et en visio. Mais c'est vrai que sur les terrains on est même tout est à l'arrêt.
Oui, alors Florent, naturellement la santé c'est prioritaire, mais je suppose qu'il y a eu une grosse déception quand même parmi tous vos pratiquants.
Alors oui, il y a une déception, mais on s'y attendait. Honnêtement, on s'y attendait. On voyait venir depuis un petit moment. On en parlait entre nous, avec les entraîneurs, même avec d'autres présidents d'associations et de clubs de foot. On en parlait entre nous. On voyait quand même venir que après les vacances, ça allait être compliqué après les vacances de pouvoir continuer. Maintenant on fait avec. À nous de nous adapter, de nous inventer également. Ça fait partie aussi de notre ADN, de nous, de pouvoir trouver d'autres moyens de garder contact avec nos licenciés.
Alors oui, justement, c'était une des premières difficultés du premier confinement, mais Dieu merci, les réseaux sociaux ont beaucoup servi. Là, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce qu'il risque d'y avoir des licenciés quand même qui s'en aillent, qui partent. C'est ça le problème aussi pour en cette période.
Alors, pas forcément. Cette deuxième période, je dirais que c'est un peu différente de la première. Dans le sens où déjà c'est pas du tout à la même saison. La première, on était sur une période de printemps début d'été où le soir les gens pouvaient, ceux qui ont un jardin, on leur mettait en place des exercices et des choses comme ça à faire chez eux, des concours de jonglage, des choses comme ça qui pouvaient être faites. Là sur cette période, on est sur une autre saison où à 17h il commence à faire nuit. Donc c'est compliqué, et il y a aussi le fait que le premier confinement, la plupart de nos licenciés, qui sont principalement quand même des jeunes, à part les seniors et les vétérans, mais ce sont des jeunes, étaient chez eux. Or que là, cette période-là, ils ont école. c'est aussi, ça change beaucoup la donne.
Oui, c'est vrai.
Voilà, et donc il y a quand même une activité, il y a quand même un lien quelque part qui reste entre eux.
Alors, la Fédé, le district, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils vous aident? Est-ce qu'il y a une idée pour éventuellement faire repartir les championnats? Parce que bon, il y aura les compétitions qui recommenceront tôt ou tard, mais il va falloir le rattraper tout ce retard.
Ah, ça c'est clair qu'il va falloir rattraper tous ces matchs qui ne sont pas faits. Après, on est tenu, comme que ce soit le district ou la Ligue, on sont tenus aux réglementations faites par le ministère, hein, ministère des Sports, qui est le seul à pouvoir donner en disant on peut recommencer ou on ne peut pas. Nous ne sommes que, malheureusement, on ne peut que subir les décisions gouvernementales et ministérielles.
Bien sûr. Alors, par exemple, la Coupe de France, hein, on sait que les clubs amateurs et les clubs professionnels entrent au mois de janvier, et les clubs amateurs doivent avoir fait leur tour. On doit prendre de retard, là. Comment ça va se passer si on veut être dans les temps au mois de janvier?
Alors, il y a déjà eu des tours qui ont déjà été, plusieurs tours ont été faits au mois de septembre. La Coupe de France a démarré de mémoire le dernier week-end du mois d'août. Voilà, pour pouvoir rattraper le retard. Et ça s'est fait sur les trois week-ends d'affilée. Il y a eu que ce soit la Coupe de France senior, mais aussi la Gambardella. Parce qu'il faut oublier qu'il y a aussi une autre Coupe de France qui est la Gambardella au niveau des jeunes. Justement, où nous, on a été jusqu'au troisième tour de Gambardella avec nos U18. Donc, tous les week-ends, voilà, il y a eu au mois de septembre cette compétition. Cette compétition est à l'arrêt. Également, ça le dépend uniquement de la fédération. Donc maintenant nous sommes on attend par rapport à ça, par rapport à la fédération. Comment va se passer le reste des compétitions? Le reste, il y a les coupes aussi, les coupes des Yvelines, parce qu'on parle de la Coupe de France, mais chaque district a a ses propres coupes. Malheureusement, toutes ces coupes des Yvelines, coupes du comité, ça s'appelle, là pareil, on ne sait pas, ça tout dépendra du goût des instances en disant oui, on peut reprendre ou on ne peut pas reprendre.
Oui, parce qu'on l'a dit, la Coupe de France, il y a un problème, c'est que les clubs professionnels rentrent dans la compétition début janvier. Donc si tout est décalé, c'est aussi l'entrée dans la compétition des clubs pro qui va être décalée, quoi.
Ah, ça c'est sûr, mais maintenant, chose qui nous est extérieure, je ne sais pas comment ça va se passer derrière.
Oui. Florent, est-ce que vous perdez de l'argent comme ça quand il y a arrêt momentané des compétitions, hein. On a parlé des difficultés rencontrées par le sport amateur et puis aussi pour le foot. Donc naturellement, vous perdez, je suppose, un peu d'argent, c'est des recettes en moins, c'est de la buvette en moins. C'est peut-être aussi des partenaires qui risquent de s'en aller parce qu'il va falloir se serrer la ceinture.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir perdu entre la saison dernière et cette saison quelques adhérents, parce que certains, notamment chez les très jeunes, certains parents hésitent à remettre leur enfant au foot ou en parlant du foot, hein, pour nous, qui nous concerne.
Donc c'est partout pareil, hein. Ça c'est les mêmes, mêmes problèmes que l'on rencontre partout, hein.
Ouais. Donc c'est une perte de licenciés, qui dit une perte de licenciés dit une perte de rentrée d'argent de cotisation. Et d'un côté, de l'autre côté, au niveau des partenaires, c'est sûr qu'il y a certains partenaires, notamment lorsque vous avez des partenaires dans la restauration ou des choses comme ça, par rapport à ce qu'ils subissent et avec les fermetures et autres, ne vont pas renouveler le partenariat parce qu'ils ont une trésorerie qui ne leur permet pas. Donc il y a aussi une perte à ce niveau-là. Il y a notamment fin de saison l'année dernière, toutes les parties manifestations, tournois ou autres, qui sont pour les clubs amateurs comme nous une rentrée d'argent importantes,
bah oui.
Voilà, qui n'ont pas eu lieu non plus. Donc c'est vrai que là, là-dessus, on a un déficit de rentrée d'argent. On a eu une aide, il y a une aide au niveau du football via la fédération, les ligues et le district sur les cotisations à ce niveau-là. Après, est-ce que ça sera suffisant pour les clubs de se relever? Alors certains clubs, oui, qui sont structurés, qui sont au niveau financier sain et qui arriveront à, voilà. Après, d'autres clubs peut-être pas, mais il est clair que cela va engendrer, je pense, des dégâts au niveau des clubs amateurs.
Oui, il risque d'y avoir donc des augmentations du prix des licences l'année prochaine, par exemple, et puis donc des épreuves en moins. Donc ça risque de poser de gros problèmes. Et puis le foot professionnel qui aussi rencontre quelques difficultés à travers ses droits télé, c'est aussi indirectement le foot amateur qui va être touché.
Oui, aussi. Alors nous, en ce qui concerne le foot amateur, je ne parlerai pas du foot professionnel parce que ça, c'est un autre milieu.
Oui, mais on sait qu'il y a de l'argent qui est reversé indirectement quand même.
Oui, il y a de l'argent qui... oui, mais disons que c'est pas ce qui fait vivre les clubs amateurs.
Non,
plus.
Absolument.
Clairement, il faut être très clair. Hein, c'est pas ce qui fait vivre les clubs amateurs. Augmenter les cotisations des licenciés. Moi, je ne pense pas que ce soit du tout envisageable. Après, chacun fera ce qu'il veut. Mais nous, ce qui nous concerne, nous, au sein du FC Rambouillet, ce n'est absolument pas envisageable.
Bon, tant mieux.
Déjà,
tant
nous mieux. Avons déjà mis en place pour cette saison-là, par rapport à la saison dernière, une baisse de cotisation pour justement par rapport à ces deux mois d'inactivité qu'on a eu, que ce soit avril, mai, une partie de juin. Donc on a sur ceux qui ont renouvelé les licences fait une déduction de cotisation. Là, si en plus on a des arrêts, voilà. Comment allons-nous faire à la fin de l'année? Est-ce qu'il va falloir refaire encore des déductions? Et là, dans ce cas-là, ça posera des gros problèmes financiers, en effet, au sein des clubs. Voilà. Donc, mais augmenter ça, non, ce n'est malheureusement pas possible d'augmenter non plus les cotisations.
Donc, ça va être finalement de réduire certains frais, peut-être des frais de déplacement, hein, des frais qu'on dit souvent administratifs.
Ah, ça va être au niveau des frais. Après, on a des frais malheureusement qui sont obligatoires, qui sont inhérents. C'est-à-dire que ce sont quand même les coûts des licences auprès de la ligue que nous reversons. Même si la ligue a fait un effort, elle dit qu'elle a fait un effort sur les coûts de licence, mais il va quand même falloir les verser. On a des prestataires, nous on travaille avec un équipementier, qu'on fournit tous nos adhérents ont une tenue, un survêtement, un t-shirt d'entraînement. Tout ça, c'est un coût, même s'il inclut, mais dans la cotisation, il faut derrière quand même, on a quand même des fournisseurs à payer. Des choses comme ça, donc on a des charges à ce niveau-là. Donc oui, sans compter évidemment les indemnités, les éducateurs et autres. Donc oui, il va falloir regarder d'un peu plus près, évidemment, toutes les charges qui sont au niveau du club.
En tout cas, vous gardez le moral, Florent, quand même, parce que ça doit pas être facile, la vie de président, quand même.
C'est pas un fleuve tranquille, comme on dit. Mais il faut garder le moral, il faut être positif, avoir envie. On a envie de continuer, on a envie de tous de se retrouver autour des terrains. On a envie de partager avec les entraîneurs, avec les joueurs. Cette envie de football, vous savez, il y a eu beaucoup de frustration aussi à la fin de la saison dernière. On a eu des équipes à Rambouillet, des équipes de jeunes qui sont, même l'équipe senior 2, qui sont montées division, et on n'a pas pu fêter les montées comme on le fait d'habitude parce qu'on ne pouvait pas se regrouper, évidemment, règle sanitaire oblige, ce qui est logique. Donc il y a cette frustration. Donc on a envie de se retrouver au bord des terrains, on a hâte que ben justement de qu'on nous dise allez-y, reprenez les entraînements, reprenez la compétition avec des règles sanitaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de règles sanitaires qui ont été mises en place, que nous avons appliquées au sein du club, qui ne sont pas évidentes à appliquer, mais pour justement qu'on puisse se retrouver, au moins voilà, créer quelque chose. C'est pas le football qu'on connaissait, c'est d'autres règles, en fonction des règles sanitaires, pas de contact, des choses comme ça, mais ça nous permet de nous retrouver. Et ça, on en a très très envie, tous, et ce qui fait que ça nous donne envie, justement, d'aller de l'avant et d'être positif.
Oui, ça reviendra, Florent, c'est sûr que ça va revenir.
Ah oui, ça c'est clair.
Ouais. Alors justement, vous parliez de clubs peut-être un peu moins bien structurés, on risque d'avoir peut-être certaines fusions de clubs, notamment au niveau des petits villages, encore plus que par le passé.
Ouais, peut-être, en effet. Après, c'est chacun voit de son côté, au niveau de son club, de sa structure, comment il est fait. Nous, au niveau de Rambouillet, on a une structure qui nous permet d'être sain, de tenir. Que ce soit en termes d'éducateurs, que ce soit en termes financiers, que ce soit aussi par rapport aux aides de la mairie, derrière au niveau infrastructure. Donc, nous, on est serein par rapport à ça. Après, comme je dis, tout ne dépend pas de nous, hein, évidemment. Mais nous, on est prêts. Lorsqu'on nous dira, feu vert, allez-y, reprenez, ben nous, on sera prêts. On reprendra, on mettra en place les règles sanitaires qu'il faudra être mis en place, comme on avait fait pour la reprise fin juin, avec les gels à l'entrée de tous les terrains, à l'entrée des vestiaires, enfin des choses comme ça. Tout sera prêt. En tout cas, pour reprendre.
Ouais, et ben très bien, merci Florent. Juste simplement pour dire que le Variété Club de France qui va venir sur Saint-Arnoux, naturellement le 5 décembre, ne viendra pas. Hein. Tous les matchs sont gelés, donc il faudra tout revoir dès le mois de janvier. Voilà. Merci Florent, en tout cas, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Ouais, dès que ça repart, hein, vous nous appelez. D'accord,
okay. Aucun problème.
Vous serez... Allez, merci beaucoup Florent.
Merci, au revoir.
Rambouillet, 14 bis rue Chasles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volet, porte et porte de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Chasles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Are you drunk or no? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here though. Energy taking
same.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors, donc effectivement, maintenant, deuxième partie de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes naturellement à distance en période confinement hein, et par téléphone sur le fixe avec notre ami Christian Rieux et puis aussi en WhatsApp avec Florent Baudouin et tout à l'heure Olivier Bourdin. Alors on a entendu la section foot de Rambouillet nous parler et nous dire comment elle vivait cette période. Bonjour Christian, comment on vit cette période aussi pour le rugby avec les mêmes difficultés économiques et puis sanitaires?
Mais oui, il y avait beaucoup de difficultés. J'avais titré mon petit papier avec Stéphane Escher, qui disait dans une de ses chansons « Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent ».
Ah oui, oui.
La seule embellie, hein, c'est finalement l'équipe de France et sa deuxième place à égalité avec l'Angleterre, qui nous permet de redresser un peu la tête à l'aube de cette Coupe du Monde tant attendue en 2023.
Oui, alors justement, Christian, hein, c'est l'occasion, on va faire le bilan du tournoi comme on le fait chaque année hein, sur l'antenne de notre radio. On va effectivement, avant, quand même dire que les clubs de rugby l'ont annoncé hein, cette semaine, il y a des grosses difficultés financières avec l'arrêt du championnat, notamment du top 14.
Oui, oui, oui. Alors, bon, déjà, il faut dire, d'une manière générale, les clubs pro continuent et pas les amateurs. Bon, tous les championnats amateurs sont suspendus jusqu'en minimum janvier.
Ouais, c'est donc, ça, fédéral 1, fédéral 2, hein, on ne joue pas.
Voilà. Oui, mais même les semi-professionnels, comme la nouvelle catégorie nationale, et fédéral 1 sont aussi suspendus.
Alors,
donc, il n'y a que la Pro D2 et le top 14 qui continuent.
Mmh. Ah oui. Alors, vous l'avez dit, malgré tout, eh bien, il y a eu une bonne nouvelle. Ça a été la prestation de l'équipe de France dans ce tournoi 2020. C'est plutôt encourageant pour l'avenir, hein, parce qu'on va quand même vous rappeler le classement définitif de cette édition 2020. C'est l'Angleterre qui s'impose avec 18 points, mais un goal average de plus 44. Même nombre de points, 18
même
points.
Même nombre de points, oui.
Ouais. Goal average de plus 21. Troisième l'Irlande, 14 points. Goal average de plus 30 par rapport à l'école qui termine donc quatrième avec le même nombre de points.
Oui.
Et un goal average de plus 21. Le cinquième, c'est le Pégase, décevante équipe du Pégase cette année, 8 points.
Oui. Et la sixième
avec 0 points. D'Italie qui termine avec la cuillère de bois. Je vais simplement rappeler les différents résultats de l'équipe de France, hein, donc qui avait battu l'Angleterre 24-17. Ensuite, donc victoire au Pays de Galles importante 27-23, et défaite en Écosse 28-17. Et enfin, donc la semaine dernière, l'équipe de France qui a battu l'Irlande 35-27, après avoir battu donc le Pays de Galles en match amical la semaine d'avant 38-21. tout ça, Christian, c'est plutôt encourageant pour la suite.
Oui, 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 oui. Bon, c'est... on commence à y voir clair. Nous avons finalement une équipe type qui tient la route avec des jeunes joueurs à tous les postes, hein, que ce soit en première ligne, Bail, Marchand, Awas, bon, troisième ligne, Kroos, Aldrit, et notre cher capitaine, les demi Dupont et Ntamack, bon, Wakatawa et Fikou au centre, bien sûr il manquait Penaud et Teddy Thomas. Bon, nous avons une équipe performante. Bon, quand on sait que ce sont les hommes qui font les systèmes, mais pas les systèmes qui font les hommes. Donc, nous avons de très bons joueurs, donc nous pouvons naviguer, comme on dit.
Oui, alors, Christian, est-ce que c'est pas la patte Galtier? Parce que cette équipe de France, c'est sa meilleure place hein, depuis 2011 dans le tournoi de destination. Mais il y a eu Saint-André, il y a eu Neves, il y a eu Brunel. Cette équipe, ces équipes n'étaient pas en confiance. Là, on a le sentiment que cette équipe, elle a retrouvé et de la confiance, mais surtout une âme et une identité. Ce fameux French Flair qui plaît à, et qui faisait la caractéristique du français.
Oui, moi je nuancerai un peu, oui. Parce que bon, je connais Galtier et bon, il faut voir que du travail, un bon travail avait été fait précédemment. Hein. Il a su bien s'encadrer, il a bien sélectionné, mais il faut dire que Brunel, sans en avoir l'air, avait fait un excellent travail, puisque les Bleus, quand même, ont été champions du monde.
Oui, mais on ne gagnait pas, que si on n'arrivait pas à dépasser une troisième, quatrième place.
Oui, alors, il faut dire... Non, mais c'est très bien. Il a beaucoup de mérite, hein, puisqu'il a su s'encadrer avec des gens performants au niveau de l'entraînement physique. On savait très bien que les joueurs d'équipe de France avaient des manques physiques, hein, puisque souvent ils s'effondraient en fin de match ou en début de deuxième mi-temps. Bon, il y avait des trous physiques. Bon, donc le travail a été recadré. Plus d'exigence par rapport à la résistance, par rapport à la formation des joueurs. Et on a des athlètes maintenant qui sont capables de tenir tout un match avec la même intensité.
Oui, et puis, question, on l'a vu, même dans la difficulté, c'est une équipe qui est capable de marquer, hein, de se retrouver, même contre le cours du jeu. Hein. Ça se fait encore il y a quelques années.
Oui, oui, mais bon, moi je veux dire, il faut voir que l'encadrement de l'équipe de France est d'un excellent niveau. Bon, et une hirondelle ne fait pas le printemps, hein. Bon, Galtier a ses mérites, mais il faut dire qu'il a quand même un très bon encadrement.
Oui, et puis bon, il y a peut-être un petit défaut, mais ça c'est un défaut aussi bien français depuis plusieurs années. C'est ces petites fautes de discipline, malheureusement, une nouvelle fois,
voilà.
Récurrentes, mais heureusement qu'ils sont palliés par justement ce beau jeu et ce beau retour du jeu à la française.
Oui, oui. Alors finalement, bon, on s'en sort bien, hein. On s'en sort bien parce que on considère qu'au niveau international, au-delà de 10 fautes, on ne peut pas gagner un match.
Oui.
Voilà. Et là, nous sommes contre l'Irlande à 14 fautes. Bon, donc voilà, nous avons dépassé les limites. Hein. Mm-hmm. Bon, donc nous avons de la chance de d'arriver à gagner et à faire d'excellents résultats.
Ouais, mais justement, Christian, vous l'avez dit, c'est la qualité de nos joueurs, cette charnière aussi, hein, Ntamack.
Oui, oui, oui.
C'est une des toutes meilleures charnières qu'on a eues depuis fort longtemps.
Mondiale.
Oui.
D'après certains de grands joueurs qui affirment que Dupont et Ntamack, ça représente la meilleure charnière mondiale.
Ah oui, hein. On l'a vu sur les matchs. Et encore, donc, on l'a dit, une équipe, justement, en se disciplinant un peu, a une marge de progression. Donc on va se remettre très rapidement dans le tournoi, puisqu'on va repartir en 2021. Et il y a la perspective de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est plutôt encourageant, malgré toutes les difficultés que peut donc rencontrer le rugby français.
Oui. Alors, Philippe, il ne faut pas s'enflammer quand même, hein, parce que si l'on fait, on parle de jeu à la française, etc. Mais si on regarde bien ce qui se passe, on a un pack super puissant, un très bon pack. Ensuite, nous avons une défense de fer. Hein, on a Edwards, c'est un entraîneur anglais qui est venu renforcer le staff de l'équipe de France et qui nous a fait travailler dans le sens d'une défense hermétique. Donc, quand on a Wakatawa, Fikou au centre, Penaud à l'aile, Boutier derrière ou Ramos, bon, on peut naviguer, hein.
Voilà, bah ça sera en tout cas ce qu'on va scouter hein, pour 2021, mais c'est bien de voir notre équipe de France qui revient à un très bon niveau sur le plan européen, en attendant naturellement la Coupe du Monde 2023. Au niveau des clubs, Christian, ça s'est un tout petit peu moins bien passé. Exeter a battu le Racing 31-27, il n'a pas manqué grand-chose en finale de Coupe d'Europe. Hein.
Ça a été plus
net hein, pour Toulon, nettement battu par Bristol, 32-19. Les Anglais ont gagné donc 2-0. C'est dommage pour le Racing, hein, il n'a pas manqué grand-chose.
Oui. Bon, finalement, le Racing aurait pu gagner, hein, mais ils se sont heurtés au pragmatisme anglais, avec Exeter, qui a joué à une passe, avec des avants surpuissants, et un jeu au pied remarquable. Hein. Bon, par rapport à la France, il faut dire que nous avons encore un jeu un peu défaillant. Quand on voit la prestation des demi, Russell et puis d'autres demi du Racing, bon, je ne me souviens plus le nom. Bon, il faut dire que les demi ont perdu un peu le match. Hein.
Et puis aussi
les demi du Racing.
Oui, et puis ces deux transformations ratées qui, à l'arrivée, coûtent cher.
Alors, moi, je ne comprends pas parce qu'on avait. Le Racing avait Machenot sous la main, très bon demi de mêlée, très bon buteur, et puis on laisse la place à un joueur qui se plaignait d'une douleur avant de commencer le match.
Mmh. Très bien, ma question, merci en tout cas d'être intervenu, d'avoir fait le bilan de ce tournoi 2020, hein, comme on le fait chaque année sur l'antenne de notre radio. Bon, on va pas vous laisser très longtemps, parce que on remet ça dès le mois de février. Hein.
Oui. Mais alors, est-ce qu'on pourra aller jusqu'en février? Parce que, bon, il faut voir qu'il y a 200 millions de pertes pour les clubs, hein, quand même.
Exactement.
Si on fait un examen un peu à la loupe.
Oui, puis de toute façon, les matchs vont se jouer à huis clos. Bon, il n'y aura pas de problème pour le tournoi destination, hein. Mais par contre, c'est vrai que on commence à s'inquiéter, en tout cas au niveau des clubs français, du championnat. Il y a moins de rentrées d'argent que dans le foot, par exemple.
Et oui, certains clubs sont prêts à mettre la clé sous la porte. Quand on voit même le stade de Toulousain, il a de la trésorerie jusqu'en fin d'année, mais après, ils ne savent pas s'ils vont continuer. Hein.
Bah ouais, bon, mais écoutez, on va croiser les doigts et puis essayer de espérer que ça s'arrange. Peut-être qu'on va réduire aussi la masse salariale des clubs. Hein,
tout à fait. Oui. Parce que, bon, il faut voir que tous les sports sont touchés. Hein. Philippe, mais. Je vois même que le cyclisme sur route est en difficulté. Hein.
Ah bah oui, bon, mais...
Toutes les compétitions de cyclisme amateur sur le territoire sont suspendues jusqu'au 2 décembre prochain. Et le cyclisme professionnel aussi en difficulté.
Ben c'est bien, ben on va en parler justement tiens, avec Olivier Bourdin, ça va être notre prochain invité. Merci Christian. Et puis ben écoutez...
Bonne journée. Ouais.
Merci. Cette émission, vous pouvez naturellement la réécouter en podcast. Et puis bah là, on marque la deuxième pause musicale et la deuxième page de pub de cette émission du dimanche 8 novembre.
RVE 103.7.
James Dean, le sourire de Marilyn, la guitare de Springsteen, une attitude de copine. T'as pas commencé, j'ai déjà fini. Comment ça, tu sais, mais j'en ai pas tant dit. Comme si je te connaissais bien, comme si je t'avais vu dans les films américains où le héros se tue. Le genre petite frappe, les cheveux en arrière, dans une Cadillac, le t-shirt plein de poussière. T'as une blonde entre les lèvres, une brune par la main. Le désert te va bien. Hollywood, Malibu, Sunset. Et les sirènes résonnent dans nos têtes. T'étais pas si loin, mais t'étais pas prêt. Sur le Pacific Coast Highway, j'ai pris l'avion pour te voir. Marcher le long des boulevards. Et l'Amérique, et l'Américain. Et l'Amérique, et l'Américain. Le Pacifique n'est pas si loin. Le Pacifique n'est pas si loin. Et l'Amérique, et l'Américain. Josh Homme et des sex appeals. J'aurais voulu que tu me vois que sous mon bon profil. J'ai beau dire que j'ai pas que ça en tête, y'a pas à dire, l'accent ça m'entête. Tu mets à l'aise et you understand. J'ai la langue qui traîne. Invite-moi dans la Cadillac. Vite, vite, et je fais mon sac. T'as une blonde entre les lèvres, une brune par la main. Le désert te va bien. Hollywood, Malibu, Sunset. Et les sirènes résonnent dans nos têtes. T'étais pas si loin, mais t'étais pas prêt. Sur le Pacific Coast Highway, j'ai pris l'avion pour te voir. Marcher le long des boulevards. Et l'Amérique, et l'Américain. Et l'Amérique, et l'Américain. Le Pacifique n'est pas si loin. Le Pacifique n'est pas si loin. Et l'Amérique, et l'Américain. Le vent dans nos cheveux, les pneus qui crissent, nos wayfarers sous les yeux, sous le solstice. Et je tremble et je vacille. Tu fais battre plus fort mon cœur de fille. Et l'Amérique, et l'Américain.
De la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
I'm
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, alors, troisième intervenante de cette matinée sportive, le président de la section cycliste de Poigny-Rambouillet, Olivier Bourdin. Olivier, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on a parlé donc des difficultés du foot avec Florent Baudouin, un peu du rugby avec Christian Rieux. Est-ce que dans le vélo, c'est pareil? Est-ce que le confinement pose problème, Olivier, actuellement?
Ben oui, surtout nous, gérer les compétiteurs, les licenciés, faire du vélo sur une distance d'un kilomètre, c'est très très compliqué, en plus pendant une heure. Donc voilà, c'est très compliqué actuellement. Faut qu'on se essaie de retrouver d'autres ressources, un entraîneur. Mais bon, ça se limite un peu. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Plus une perte de à distance des gens. Donc voilà, on les voit moins. Donc c'est un peu compliqué pour faire les objectifs. Surtout sur certains jeunes qu'on avait de gros objectifs, qui étaient en pleine évolution. Donc là, c'est un peu compliqué de les suivre. Voilà,
et est-ce que financièrement, ça peut avoir des conséquences sur vos clubs, mais aussi plus loin sur le cyclisme professionnel, comme on en a parlé dans le foot et dans le ballon ovale tout à l'heure?
Tout à fait. Bon, on en parle beaucoup aux médias, on parle des grands sports, des grands événements au niveau pro. On voit déjà la difficulté, eux, qu'ils ont, mais nous, c'est amplifié par 50, parce qu'on déjà en a pour médiatique. Nous, c'est le premier, malheureusement, bon, on a quand même une part dans notre budget qui sont les partenaires. Puis les partenaires, c'est la première ligne d'investissement qu'on raye quand on est en difficulté. C'est les subventions sportives ou événementielles. Donc voilà, donc ce côté-là, nous, on a déjà deux partenaires qui, malheureusement, ont été obligés de nous lâcher. Et voilà, ça devient très compliqué. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas l'avenir. Quoi. C'est, même si on a géré les communes, nous aident sur certains sujets, le département, la région nous aide aussi. Mais bon, voilà, ça, c'est limite. Quoi. On peut pas. On a du mal à voir plus loin. Même s'il faut activer sur des organisations, des manifestations. Voilà, mais bon, c'est compliqué niveau financement et puis pour l'avenir aussi. Quoi. Se relancer, après, ça sera compliqué.
Alors, on va croiser les doigts. Il y a le Tour de France donc en 2021. Il y a eu le Tour de France en 2020. On en a parlé, Olivier, un Tour de France qui est resté le Tour de France, toujours aussi populaire, qui a sauvé la saison et qui a sauvé le cyclisme pro. Et celui de 2021, il a été présenté la semaine dernière. 3383 km, c'est ce qui attendra les coureurs entre le 26 juin et le 18 juillet. Ça sera la 108e édition. Comment vous trouvez ce Tour? On a le sentiment que c'est un Tour un peu plus classique, dirons-nous.
C'est un Tour classique. Bon, j'ai moins montagneux que ces dernières années, mais oui. Classique et géré avec des parcours un peu plus accessibles pour plus de coureurs. Après, de toute façon, on peut faire n'importe quel parcours, ce sont les coureurs qui font la course.
On l'a vu encore cette année.
Voilà. Donc, on a beau, là, pendant ces dernières années, c'était beaucoup montagneux, mais on s'est aperçu qu'en fin de compte, les leaders attaquaient que dans le dernier col, dans les 5 derniers kilomètres du col pour commencer à faire des écarts. Puis après, c'était plus d'élimination par derrière. Donc là, à la limite, si c'est plus classique, si c'est plus, avec des contre-la-montre un peu perlés, ça peut être quelque chose de peut-être plus intéressant, ouvert à pas mal de monde. Puis après, c'est les compétiteurs qui vont faire. Et là, c'est la question de quels compétiteurs qu'on va voir. Surtout avec la journée qui arrive, là, ça va être complètement différent. Ça, je pense que on va arriver dans une autre phase de gestion d'un tour avec les jeunes qui attaquent à droite et à gauche, qui sont des équipes ça sera compliqué de cadenasser. On l'a bien vu cette année. Kopogacar, il gagne, il a pratiquement pas d'équipe autour de lui. Il gagne le Tour de France. Il a bien su négocier son affaire. Donc voilà. Donc on verra la nouvelle façon de courir. Et puis un circuit qui est quand même qui fait place à pas mal de moments exceptionnels qu'on devrait vivre.
Oui, alors on va rappeler 4 jours en Bretagne. Ça commencera donc, comme on l'a dit, le 26 juin. Les 4 départements bretons seront donc concernés. On retrouvera notamment dans la deuxième étape le fameux mur de Bretagne que le Tour a souvent emprunté. Ensuite, c'est le retour du contre-la-montre avec chez les frères Madiot, donc entre Chanzé et Pilaval, 27 km. Ça peut déjà décanter la course.
Ça peut décanter la course, surtout que bon, c'est un contre-la-montre, mais c'est la plaine là-bas. Et les écarts, ça peut se faire. Donc, contre la montre en montée ou que c'était réservé plus aux grimpeurs, là, ça va être ouvert à pas mal de rouleurs, mais de baroudeurs. Non, ça revient un peu avant, c'est que ça va être une gestion à plus long terme. Plus long terme, c'est-à-dire que des coureurs peuvent revenir dans la course alors qu'on pensait qu'ils étaient éliminés. Alors, ils vont pouvoir revenir grâce à des contre la montre ou même s'ils ont perdu dans le contre la montre, ils peuvent revenir en montagne.
Alors après, il y aura naturellement la plaine avec une étape très courte à Châteauroux. Le lendemain, l'étape la plus longue du tour, hein, 248 km, ce qui nous emmènera au Creusot. Et puis après, bah, Olivier, ça sera, après le passage dans l'Ain, eh bien, l'arrivée dans les Alpes à travers le Grand Bornand et puis Tignes. C'est-à-dire qu'on va retrouver Tignes qu'on avait malheureusement un peu escamoté, hein, pour raison forcée, il y a deux ans.
Tout à fait, on va retrouver des bons endroits, des bons paysages, de bons cols, des parcours vraiment dignes pour des baroudeurs, pour attaquer de loin, de près, je dirais même. Voilà, donc avec des arrivées un peu en col, moins que d'habitude, mais quand même des arrivées quand même, avec après il y a le Ventoux, il y a des choses, endroits que ça va être assez sympa à voir.
Alors justement, le Ventoux, on ira, en passant d'abord par Valence, hein, une étape pour Bordeaux, et là, ça sera une arrivée à Malocène, avec deux fois la montée du Mont Ventoux, mais il n'y aura pas l'arrivée au sommet, mais ça sera une grande première, c'est deux montées par les deux versants du Mont Ventoux.
Deux versants, puis je dirais, même en plus on aura la chance, comme c'est deux versants, donc deux accès différents, s'il y a du vent, au moins une des deux fois, on aura le vent pour finir, donc... Ça sera une montée du Ventoux qui sera très, très compliquée des deux fois. Puis arriver aussi sur Valocène, la descente, arriver sur Valocène sera magnifique à faire. Hein. On a déjà vu avec les profs du Ventoux autour. C'est super à voir.
Ça doit être quelque chose.
C'est une belle étape ce jour-là.
Ouais. Alors ensuite, à nouveau la place pour les sprinters, hein, avec des arrivées à Nîmes, à Carcassonne, à Quillan. Et puis, ça sera ensuite leur tour sur les Pyrénées. Et là, on aura Andorre-la-Vieille, Saint-Gaudens probablement à nouveau pour les sprinters, un petit répit. Et puis, deux grosses étapes, Saint-Lary-Soulan, le 14 juillet, et Luzardinen.
Tout à fait, là, encore des bonnes finalités avec un passage en Espagne. Après, c'est les coureurs qui vont faire leur course. Après, la météo aussi. Hein, je dirais tous les ans, la météo nous fait un petit tour aussi, hein, soit du mauvais temps, soit des canicules, soit du vent. Bon, voilà, ça va être un beau terrain maintenant à suivre.
Voilà, ensuite on quittera les Pyrénées, on ira sur Libourne, où là aussi on devrait à nouveau retrouver les routiers sprinters. Et puis un dernier contre-la-montre entre Libourne et puis Saint-Émilion, il sera beaucoup plus plat que contre-la-montre qu'on a eu cette année, hein, sur le Tour de France de 2020. Et enfin, donc l'apothéose avec une dernière étape entre Chatou et les Yvelines, 112 km. Chatou qui avait été ville-étape pour le Paris-Nice il y a deux ans. Hein, on se rappelle avoir suivi l'étape entre Chatou et puis Meudon avec la victoire d'Arnaud Démare.
Tout à fait. Bon, après, on a ASO a signé pour 4 ans, hein, donc il restera encore 2 ans à arriver dans les Yvelines en 2022 et 2023. L'arrivée 2024 pour les Jeux Olympiques, on ne sait pas encore. Voilà, donc c'est une finalité dans les Yvelines, hein, qui est vraiment très porteur, le département très porteur du cyclisme dans le sud de France. Voilà, donc, mais surtout si le contre-la-montre autour de Bordeaux, ça va être, s'il y aura des écarts à faire.
Dans les vignes.
Mais bon, avec du vent, ça promet aussi, comme le dernier contre-la-montre de cette année, hein, pour encore. Peut-être tour sur ce jour-là. Je pense pas. Quoi. Je pense que vu la jeunesse qu'il y aura sur le tour 2021, avec énormément de jeunes super actifs là, qu'on a depuis quelques mois, là, même une année ou deux, je pense que le tour va être assez ardu et très, très animé pendant toutes ces trois semaines.
Alors, ce week-end, on termine cette saison, une saison un peu donc improvisée, raccourcie, hein, mais on s'est quand même régalé. Il y a eu un beau Tour de France, on l'a dit, puis il y a eu Julien Alaphilippe, et puis quelques belles classiques aussi, quelques belles victoires, avec notamment Van Der Poel et puis Roglic.
Oui, une année très concentrée, mais quand même on a réussi à le faire, même si malheureusement, ça aurait été l'apothéose en ayant Paris-Roubaix, parce que ça aurait été un Paris-Roubaix.
Ah oui.
Très humide, ça aurait été vraiment magnifique depuis quelques années. Ça aurait vraiment été l'apothéose de faire l'optimisation, je dirais, en 4 mois cette année 2020. Ça aurait été génial. Mais bon, on a quand même, les organisateurs ont quand même essayé de faire quelque chose. Les coureurs, même là, le Tour d'Espagne, il va aller jusqu'au bout, même si on avait un peu de doute par moment. Donc voilà, ça aura quand même été assez dense depuis la reprise, depuis le début août. Hein, donc, puis des belles épreuves. De beaux champions, de beaux espoirs pour nous. Hein, Alain Philippe, avec ce titre de champion du monde, quand même magnifique. Parce que vraiment, un vainqueur en costaud, à son image. Donc, une année 2020 escamotée, mais belle en fin de compte, en finalité.
Voilà, on a réussi à sauver la face. Merci Olivier, à très bientôt. Bon confinement. Hein, et puis nous, on va terminer cette émission bien remplie ce matin où on a parlé donc du foot, du rugby et du vélo. Bon dimanche à toutes et à tous. N'oubliez pas, il y a le départ du Vendée hein, à partir de 13h02. Pour ceux qui aiment la voile, on en avait parlé il y a 15 jours avec Denis Galliette. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec comme invité, tiens justement, le directeur du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Je devance le temps, mes pensées en exil. Je dérive, je rêve à l'envers. Voyageur éphémère, dis-moi jusqu'où peut-on aller trop loin. Notre amour est-il plus fort que nos choix. Qu'on se fait des vents de liberté aux insouciants reflets. Je vacille, je vis sans repère. Voyageur éphémère, dis-moi jusqu'où peut-on aller trop loin. Notre amour est-il plus fort que nos choix.
I feel on everywhere. I'm with you. We can go.
Sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Joe Biden est le nouveau président des États-Unis. Le démocrate l'emporte face à Donald Trump et devient le 46e leader du pays en compagnie de sa vice-présidente Kamala Harris, la première femme noire à occuper ce poste dans l'histoire du pays. De son côté, Donald Trump ne s'est pas exprimé publiquement et a nié avoir perdu sur les réseaux sociaux. Celui qui est désormais l'ancien président était de retour hier à 23h, heure française, à la Maison-Blanche après avoir joué une partie de golf en Virginie. D'ailleurs, que se passerait-il si Donald Trump ne reconnaissait pas sa défaite? Un rapport effectué par le Transition Integrity Project, publié en août, évoquait déjà que Trump était susceptible de contester le résultat.